Les côtés tout à fait positifs de ce texte qui met en application des décisions qui avaient déjà été prises. Eh bien, les côtés tout à fait positifs, c'est que le texte commence par parler des victimes. Alors ça, c'est quand même la chose la plus importante, hein. Les enfants sont des victimes. Alors que beaucoup de textes plus anciens ont tendance à présenter l'Église d'abord comme victime. Non, non, les premières victimes, ce sont les enfants, et c'est ce que souligne ce texte. Le deuxième point positif, c'est que le texte rappelle qu'il faut se conformer aux lois civiles des différents pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont les conférences épiscopales qui doivent rédiger les directives et non pas le Vatican lui-même, parce qu'il ne pourrait pas s'adapter à toutes les lois civiles de tous les pays du monde. Donc en France, par exemple, les lois civiles rendent obligatoire la dénonciation des criminels. Dans d'autres pays, cette dénonciation n'est pas obligatoire. Alors vous voyez qu'en France, les directives devront tenir compte de l'obligation qu'a l'évêque de dénoncer les prêtres criminels. Le troisième point qui est positif, je pense, c'est qu'on insiste sur la formation. La formation des prêtres, des jeunes, des séminaristes, la formation permanente du clergé, la formation des religieux qui sont concernés aussi. Alors, on peut regretter peut-être un petit peu plus, on en parle aussi dans le texte, mais personnellement, je trouve qu'on aurait pu le souligner un petit peu plus, c'est la question de la présomption d'innocence. Un prêtre peut être accusé à tort, quelquefois, et le texte n'insiste pas beaucoup sur le fait qu'aussi longtemps qu'on n'a pas prouvé qu'il est coupable, eh bien, il doit être présumé innocent.
Alors, le texte souligne également la responsabilité particulière des évêques.
Oui, bien sûr, c'est chaque évêque qui est responsable de son clergé. Pas seulement des évêques, mais aussi des supérieurs majeurs, puisque ça concerne aussi bien les clercs que les religieux. On pourrait ajouter aussi les laïcs qui sont engagés activement dans des tâches ecclésiastiques. Mais en fin de compte, dans un diocèse donné, c'est l'évêque qui est le principal responsable de son clergé, des religieux qui habitent sur le territoire du diocèse. Et la conférence des évêques doit rédiger les directives, mais c'est à chaque évêque de les appliquer dans son propre diocèse.
Et donc, lorsque la pédophilie est prouvée, le prêtre doit démissionner de l'état clérical. Alors, est-ce que l'on peut annuler un sacerdoce comme on annulerait un mariage, en fait ?
On peut, oui, on peut annuler l'ordination elle-même, ça existe, mais c'est très rare. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on n'annule pas l'ordination, mais on renvoie le prêtre de l'état clérical. Il quitte le clergé. Il reste prêtre. En cas d'urgence, par exemple, il continue de pouvoir donner l'absolution à un mourant ou des choses comme ça. Mais il n'a plus du tout le droit, en dehors des cas d'extrême urgence, d'exercer son sacerdoce. C'est ce qu'on appelle le renvoi de l'état clérical. Alors vous avez utilisé le mot démission. Il faut se méfier parce que c'est une mauvaise traduction du latin. En latin, dimissio veut dire renvoi. Alors qu'en français, démission veut dire que c'est le prêtre lui-même qui démissionne. Maintenant, il s'agit bien d'un renvoi fait par l'autorité ecclésiastique. On renvoie le prêtre, on le fait quitter l'état clérical.